le magazine des Nations Unies.
La RDC enregistre une augmentation significative du taux brut de scolarité et du budget national alloué au secteur de l'éducation, selon un rapport publié par l'UNICEF. Dans ce magazine, vous suivrez le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance en RDC et le ministre du Plan. 3 millions de Congolais seulement disposent de bonnes toilettes. Encore un constat de l'UNICEF à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des toilettes. Ce manque d'installations hygiéniques constitue un problème de santé publique en RDC. Enfin, la République démocratique du Congo, un pays solution à la problématique du changement climatique. La feuille de route, toutefois, de cette solution vaut environ 22 milliards de dollars. C'est ce que le pays va négocier à la conférence de Paris, COP21. L'invité du magazine, un expert du PNUD, nous expliquera le rôle que la RDC peut jouer dans la lutte contre le réchauffement de notre planète.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue à cette édition du magazine des Nations Unies. La RDC a enregistré une augmentation significative du taux brut de scolarisation à l'école primaire et du budget national alloué à ce secteur. C'est ce que révèle un rapport intitulé « Vers la réalisation du droit à une éducation de qualité pour tous » présenté mercredi dernier par l'UNICEF et le ministère du Plan à Kinshasa. Ce document note toutefois quelques écueils tels que la qualité de l'éducation et la question de la gratuité de l'enseignement primaire. Jean-Pierre et Lali pour le reportage.
Dans son allocution de circonstances, le représentant de l'UNICEF en RDC a souligné les résultats encourageants contenus dans ces documents de 30 pages. Pascal Villeneuve.
Le premier constat majeur concerne les progrès indéniables accomplis dans le secteur, avec une augmentation significative du taux brut de scolarisation de 62% au cours de l'année scolaire 2001-2002 à 110% au cours de l'année scolaire 2012-2013. Un autre constat majeur, le retour en force de l'État dans le financement du secteur. Le budget national alloué au secteur de l'éducation primaire et secondaire ayant augmenté de manière très substantielle. En 2012, le budget représentait 12,8% du total des dépenses publiques. En 2014, 14%.
Et pour le ministre du Plan, Georges Wembi, cette analyse vient à point nommé.
Le lancement du rapport de cette première étape vient à point nommé, car cette analyse représente un input de qualité au processus de la réforme de l'éducation primaire.
Cependant, cette embellie n'ausculte pas les entraves récurrentes du secteur contenu dans ces rapports. La qualité de l'éducation, la disparité filles-garçons, la non-effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire impliquant ainsi la contribution des parents. Notons que cette étude a été réalisée dans l'ex-province du Katanga par des chercheurs de l'Institut de politique et de gestion de l'Université d'Anvers en Belgique et du centre Aroupé de Lubumbashi.
Autre fait d'actualité, Pretoria a renvoyé 47 casques bleus sud-africains de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC. Motif, ces derniers ont violé les règles du couvre-feu en septembre dernier à Goma, au Nord Kivu. La MONUSCO s'en félicite parce que cette décision cadre avec le code de bonne conduite en vigueur au sein de la force onusienne en République démocratique du Congo. Déclaration du porte-parole de la MONUSCO ce jeudi 19 novembre à Kinshasa. Les propos de Félix Prosper Bass au micro d'Honoré Missenga Kalala.
Il faut relever que suite à leur rapatriement sur décision des autorités sud-africaines, compte tenu justement de la violation du couvre-feu qui a été observé. Ces soldats sont repartis chez eux, ils ont fait l'objet d'une procédure militaire qui a abouti à cette décision qui a été prise au niveau de l'Afrique du Sud. Au niveau de la mission, nous n'avons pas à commenter les décisions qui ont été prises, mais nous nous félicitons que des décisions soient prises dans ce sens-là. Ceci entre en droite ligne des prescriptions qui sont en cours au sein de la force de la MONUSCO, donc le respect de la discipline, le respect des instructions qui sont données concernant le mode de conduite des casques bleus déployés en RDC.
Bouclons cette page par la prise de fonction du nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Maman Sambo Sidiku est arrivé à Kinshasa lundi 16 novembre dernier. Dans ses premières impressions livrées à Radio Kapi, il s'est dit heureux de revenir en RDC après son dernier séjour de 2010-2011.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Nous le disions en titre, 3 millions de Congolais seulement sur les 70 millions disposent de bonnes toilettes, révèle l'UNICEF à l'occasion de la Journée mondiale des toilettes célébrée le 19 novembre dernier. Le manque de toilettes constitue un vrai problème de santé publique. Il contribue au développement du choléra et d'autres maladies diarrhéiques. C'est pourquoi l'UNICEF appuie le gouvernement dans une campagne de sensibilisation menée à travers le programme conjoint Village et École Assainie dans le pays. Franck Abeille, chef de la section WASH de l'UNICEF, en parle dans son entretien avec Jean-Pierre Elali Ikoko. Suivez.
Franck Abeille, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Vous êtes chef de la section WASH à l'UNICEF, RDC. C'est jeudi 19 novembre. Le monde célèbre la Journée mondiale des toilettes. Les toilettes, c'est dans les trains quotidiens de la vie. Pourquoi toute une journée mondiale dédiée aux toilettes?
Pourquoi toute une journée mondiale? Je pense que ça peut partir peut-être d'un constat un peu triste, qui est de se dire que si on a besoin de faire une journée sur ce thème, c'est parce que tout le monde n'y a pas accès ou tout le monde n'a pas conscience qu'il doit y avoir accès. Donc, l'intérêt, c'est d'en faire parler et de trouver des mécanismes de communication pour rappeler aux personnes pourquoi c'est important.
Oui, c'est quoi les toilettes?
Alors, les toilettes, c'est un sujet tabou pour beaucoup de gens, déjà. Ensuite, c'est quoi? C'est tout simplement un lieu d'aisance, voilà, où il est très important d'aller pour tout ce qui est fonctionnement du corps humain, pour se soulager et, du coup, se préserver de tout ce qui est maladie à partir du moment où celles-ci sont dites hygiéniques.
Et certaines personnes parlent des latrines. Est-ce qu'il y a une différence entre latrine et toilette?
Aucune. Tout simplement,
non, c'est synonyme.
C'est la même chose. Pendant longtemps, moi-même, au début, j'étais un peu confus au départ. Et puis, finalement, avec l'expérience, on commence à comprendre que c'est exactement la même chose.
Oui, et les thèmes retenus cette année, Monsieur Franck Abeille, assainissement et nutrition. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux concepts?
Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la malnutrition est notamment une des conséquences de maladies, entre autres. Pas que seulement de problèmes d'accès à la nourriture. Les maladies peuvent avoir pour origine différents vecteurs, dont les toilettes. Puisque des toilettes non propres, non assainies, non hygiéniques, peuvent véhiculer donc des maladies diarrhéiques et autres, et qui affaiblissent tout simplement le corps d'un enfant, qui le rend beaucoup plus sensible à tout ce qui est ensuite malnutrition. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la malnutrition, en dehors d'un aspect physique peut-être sur des enfants forts, c'est-à-dire un amaigrissement dans certains cas, ou parfois des œdèmes dans d'autres, a surtout des implications très fortes sur le développement de l'enfant. Alors le développement, c'est pas que physique, c'est-à-dire ce n'est pas que sa taille, il sera pas forcément petit, mais c'est aussi sur son cerveau, donc ça veut dire sur son éveil. Et quand vous prenez un enfant qui va avoir ce type de retard, vous le mettez ensuite dans le monde réel, dans la population, et ben c'est toute une population qui peut être affectée et donc forcément contribuer à un mauvais état d'un pays.
Oui, vous parlez des toilettes, bien entendu c'est un problème de santé publique. Pourquoi les toilettes ne sont pas entretenues ici à Kinshasa? Si il suffit de vous promener dans la ville, vous voyez que l'état des toilettes laisse à désirer, et même à travers tous les pays. Et pourquoi les gens ont cette habitude?
Je pense que la première raison, c'est que le lien entre toilettes propres et la santé n'est pas toujours connu, n'est pas toujours évident entre les personnes.
Les gens vivent dans l'ignorance?
Je pense qu'il y a un manque d'éducation à ce niveau-là assez fort, de faire le rapprochement entre ces deux thématiques. Ça, c'est le premier point. Ensuite, bon, je pense qu'il faut aussi qu'on souligne qu'il y a quand même des personnes qui, de plus en plus, ont accès à des toilettes et qui de plus en plus en prennent soin. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est pas assez au regard de la population. Pour vous donner une idée, on parle en RDC d'à peu près un peu plus de 3 millions de personnes qui ont nouvellement accès à des toilettes. Donc c'est très très faible au regard de la taille de la population.
À des bonnes toilettes?
À des bonnes toilettes, des toilettes dites hygiéniques.
Il y a même l'inexistence des toilettes.
Ah, mais il y en a qui n'ont pas du tout. Effectivement, ce qu'on appelle la défécation à ciel ouvert, entre guillemets, est très très courante en RDC et à travers le monde également. Un chiffre, on estime qu'il y a à peu près aujourd'hui 2,5 milliards de personnes qui pratiquent la défécation à l'air libre à travers le monde entier.
Et quelles sont les conséquences des toilettes mal entretenues, même ceux qui font la défécation à l'air libre, comme vous le dites?
Oui, tout à fait. La première des conséquences, c'est effectivement un environnement qui n'est pas sain. Donc dans un environnement non sain, on est beaucoup plus vulnérable aux maladies.
Une maladie, par exemple?
Voilà. Une maladie très courante, mais qui est mortelle, on l'oublie assez régulièrement, mais c'est le choléra. En ce moment, vous avez beaucoup d'épidémies de choléra dans 5 provinces en RDC, et qui sont entre autres véhiculées notamment par la défécation à l'air libre. Vous avez ensuite tout ce qui est maladies diarrhéiques, tout simplement, qui sont très faciles à attraper quand on va dans des toilettes non propres et qui affectent très sévèrement la santé d'un enfant, un enfant étant plus vulnérable, son système immunitaire étant moins développé que celui d'un adulte.
Est-ce qu'il y a des normes qu'il faut observer pour avoir de bonnes toilettes?
Il y a deux réponses à ça. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des normes en RDC, un cadre légal? Pour le moment, non. En revanche, il existe un cadre déjà international, et ensuite, il existe des normes dites de bonnes pratiques. Donc, pour le moment, en RDC, on se situe
conclue
avec le cadre international que l'on adapte au contexte de la RDC, en disant qu'effectivement une latrine se doit d'être à un certain métrage, par exemple d'une source d'eau, à un certain métrage d'une cuisine ou d'une nappe phréatique. Voilà, il y a ensuite effectivement la profondeur de la fosse, il y a la taille de la superstructure. Donc oui, il existe des standards, je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, mais oui, il y a en tout cas en RDC des normes internationales appliquées au contexte de la RDC, mais on est toujours en discussion effectivement avec le gouvernement pour développer un cadre légal.
Ah justement, et qu'est-ce fait l'UNICEF pour sensibiliser la population ?
Bon, l'UNICEF a un très fort programme qui s'appelle Village École Assainie. Ce très fort programme qui, effectivement, se consacre sur les villages, donc en milieu rural, exclusivement, pas en milieu urbain et périurbain. Et pendant tout le processus de développement d'un environnement assaini au niveau d'un village, on va se concentrer sur permettre aux personnes de faire la relation entre un environnement assaini, une bonne santé, et comment est-ce qu'on arrive à avoir un environnement assaini. Donc, par les toilettes, ça passe effectivement par comment construire sa toilette avec ses propres moyens, premièrement. Ça passe également sur comment l'entretenir, ça passe également sur sensibiliser la population, et dans le cadre de ce programme, on travaille également dans les écoles. Et dans les écoles, on a aussi le même type de développement, et là, on travaille directement avec les élèves, sachant qu'ils ont également les cours de PES, qui sont 2 heures par semaine, qui sont liés effectivement vraiment à l'environnement sanitaire.
Monsieur Franck Abeille, pour terminer, un mot sur ce programme Village et École Assainie, qui est dans sa deuxième phase. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot en ce qui concerne les chiffres ? Quel est l'état des lieux actuellement ?
Tout à fait. Le programme, qui a commencé en 2008, a connu une seconde phase à partir de 2013. Pourquoi une seconde phase ? Pour s'assurer de la pérennité en fait, des actions qui sont mises en place. Donc ça, c'est une des composantes très essentielles. En termes de chiffres, sur cette seconde phase, on vise à peu près 6000 villages, 4 millions de personnes à travers la RDC, et 1250 écoles, ce qui représente à peu près 500 000 élèves, parce qu'on travaille exclusivement avec le primaire.
Et dans quelle province vous êtes le plus présent ?
Alors, si on parle ancienne province, on était présent dans 11 des 11 anciennes provinces. Si on parle aujourd'hui avec le nouveau découpage, la décentralisation, on est présent dans 22 des 26 nouvelles provinces, et sur les un peu plus de 500 aires de santé qu'il y a aujourd'hui en RDC, on est présent dans plus de 250 également. Donc on couvre vraiment une très large majorité du pays. Sachant que c'est un programme national supporté par l'UNICEF.
C'est bien. Et pour terminer, aujourd'hui c'est la journée mondiale des toilettes. Est-ce que Monsieur Franck, l'UNICEF a un message à lancer à la population congolaise et à tous les auditeurs de Radio Capi qui nous suivent en ce moment?
Oui, bien sûr. Les toilettes, ça ne devrait pas être un sujet tabou, tel que ça peut l'être aujourd'hui. Je pense qu'il est très important de considérer que c'est une part entière de votre vie, de votre environnement, et que c'est à vous de le préserver et à vous de faire en sorte que celle-ci soit bien utilisée.
Voilà. Et Monsieur Franck Abeille, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Près de 60 parlementaires francophones venus de 14 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont participé du 17 au 18 novembre 2015 à Kinshasa à un atelier sur la gouvernance du secteur minier. Objectif de l'atelier, permettre aux participants dans leur triple rôle de législateur, de contrôleur et de représentant du peuple de mieux agir pour garantir la transparence et la redevabilité dans le secteur minier. L'organisateur de cet atelier, le PNUD, a bénéficié de l'appui de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, de la France, de la coopération allemande et de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Dans le même volet, et toujours à Kinshasa, les secrétaires généraux de l'administration publique, membres des cabinets ministériels et des entreprises publiques, ont pris part du 16 au 18 novembre, la semaine dernière, à un séminaire de renforcement des capacités et d'évaluation du niveau d'exécution des recommandations dans le cadre des contrôles parlementaires, une formation organisée par le ministère des Relations avec le Parlement, avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD. Enfin, un petit tour à Kalemi, dans la nouvelle province du Tanganyika. 40 fonctionnaires du commissariat local de la police nationale congolaise ont suivi une formation des formateurs. La clôture de cette formation assurée par la police de la MONUSCO, UNPOL, a eu lieu le 14 novembre dernier.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le rendez-vous de la conférence de Paris sur le changement COP21 arrive à grands pas. C'est du 30 novembre au 11 décembre prochain. La République démocratique du Congo va y participer avec à la clé un programme ambitieux de développer ses énergies renouvelables. Programme formulé avec l'appui du PNUD et avalisé lors de la deuxième édition du Forum sur les énergies renouvelables tenu à Kinshasa du 13 au 14 novembre 2015. Pour expliquer l'enjeu de la COP21, le magazine des Nations Unies reçoit encore une fois M. Idesbald Chinamura, conseiller au bureau du PNUD RDC en énergie et changement climatique. Idesbald Chinamura s'entretient avec Honoré Missinga Kalala.
Idesbald Chinamura, bonjour.
Bonjour Honoré.
Le gouvernement a encore organisé à Kinshasa, avec l'appui du PNUD de votre agence, la deuxième édition du Forum national pour l'accès pour tous à l'énergie durable. C'était du 13 au 14 novembre dernier. Quels étaient les objectifs de cette deuxième édition, Idesbald de Chinamura?
Merci encore, Honoré, de me recevoir. C'est toujours un plaisir d'être à la radio Okapi. Le FODER avait effectivement pour objectif de sensibiliser les parties prenantes autour de l'initiative énergie durable pour tous et mais surtout de l'accès pour tous à l'énergie en République démocratique du Congo. C'est une initiative qui est lancée depuis 2012, comme vous le savez, et donc le pays a souscrit entièrement à ses objectifs. Nous voulons dès le départ commencer à sensibiliser. Les termes c'est 2030, mais on ne va pas attendre 2030. Il faut dès à présent commencer à mettre en place les structures, commencer à sensibiliser, mobiliser toutes les parties prenantes, mobiliser les ressources et s'engager. Donc c'est une ambition qui va continuer et qui va prendre de l'ampleur au fur et à mesure en avant.
Il y a un rendez-vous qu'on attend, la conférence de Paris sur les changements climatiques du 30 novembre au 11 décembre 2015, c'est COP21. Dans le cadre de l'initiative énergie durable pour tous, la RDC envisage de réduire ses émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 17% à partir de 2020, en misant notamment sur le secteur énergétique. Comment concrètement la RDC peut utiliser ses énergies pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre?
Oui, les ambitions du pays sont effectivement très importantes. 17% des réductions des gaz à effet de serre. Vous savez que chaque pays doit prendre des ambitions comme ça, qui doivent être mises en œuvre d'ici à 2020. Parce que comme les protocoles de Kyoto s'arrêtent en 2020, donc nous allons entrer dans les nouveaux protocoles qui vont être négociés effectivement à Paris et qui entrera en vigueur à partir de 2020. Et mais en attendant, on a une période de transition. C'est la période que nous sommes en train de vivre en ce moment, où on doit finir les ambitions et essayer de s'ajuster par rapport à cela. Dans les ambitions de la RDC, qui sont très très salués par la communauté internationale pour l'objectif des 2 degrés Celsius, il y a un élément important qu'il faut comprendre. C'est que les émissions de la RDC sont issues du secteur forestier, utilisation de la terre et changement d'utilisation de la terre. Ça, c'est important à comprendre. Plus de 92% des émissions de gaz à effet de serre de la RDC proviennent donc de ces secteurs-là qu'on appelle en anglais LULUCF, qui signifie seulement changement d'utilisation des terres, foresterie et puis changement d'affectation des terres. Donc, c'est là la source principale, la déforestation. C'est causé par, on peut dire, trois facteurs principaux. L'agriculture surbrûlée, l'élément le plus principal, et puis il y a bien sûr changement d'utilisation d'affectation des terres, et puis nous avons l'énergie, la recherche du bois énergie. Et donc, avec l'initiative énergie durable pour tous, il y a des alternatives qui vont être proposées. Notamment, dans les cas de l'agenda d'action pays, on parlait des JPL, gaz du pétrole liquéfié, qui est effectivement un gaz important, qui était brûlé, mais qui va être récupéré. Il y a également d'autres alternatives qui sont proposées. Mais je suis conscient que c'est plus facile à dire qu'à faire. En RDC, sortir du bois énergie tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, c'est un grand défi.
Et comment le PNUD entend aider la RDC à respecter ce programme?
Le PNUD, d'abord, comme on l'a dit, nous participons à la formulation de cet agenda d'action pays, où nous définissons les ambitions du pays, donc on aide les pays à définir ses propres ambitions, mais aussi à être conscient des enjeux. C'est facile de dire, voilà, 2030, nous voulons amener tous les ménages congolais à utiliser ce que nous appelons les systèmes de cuisson propres. C'est facile à dire qu'à faire, parce que vous devez vous rendre compte que le secteur bois-énergie, ne fût-ce que pour la ville de Kinshasa, emploie environ 300 000 personnes qui produisent environ 5 millions de mètres cubes de bois par an. Et ça génère des revenus qui vont autour des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires générés par an. Alors, comment nous allons amener à substituer ça? Il faut effectivement voir comment on va trouver le moyen de réinsérer ces populations, ces filières, dans les nouvelles options qui sont proposées. Et ça, on doit être conscient de ça. Les PNUD également travaillent à mobiliser des partenaires techniques et financiers. lors du FODER de l'année dernière 2014. Les PNUD étaient tout seuls, mais maintenant, les PNUD travaillent en étroite collaboration avec la Banque africaine de développement, qui a des ambitions aussi très très importantes pour la RDC. Et déjà, pendant les FODER 2, il y a eu beaucoup d'engagement de l'Union européenne, de la Banque mondiale, de la coopération britannique au développement, du FIDI, et puis d'autres agences de développement qui sont également prêtes aujourd'hui à rejoindre ces noyaux durs qui constituent le PNUD et la BAD pour avancer dans les appuis à la République démocratique du Congo. Mais il y a aussi le secteur privé qui s'est joint et la société civile. Donc ça, c'est des résultats assez importants et significatifs qui montrent effectivement que c'est possible de fédérer des efforts, d'amener tout le monde à travailler ensemble et à conjuguer les efforts.
Dernière question, il n'est pas de Tinamoura. Je reviens à la conférence sur le changement climatique COP21 à Paris. Quel message, selon le PNUD de la RDC, devrait apporter à ce sommet mondial?
La RDC va se présenter à la COP21 comme un pays solution au problème du changement climatique. Il y a beaucoup de pays qui vont aller là-bas, bien sûr, pour négocier, qui en pâtissent sérieusement en termes d'adaptation. Mais la RDC a des cartes en main pour proposer des solutions à la question de la réduction des gaz à effet de serre. Quelles sont les solutions que la RDC dispose en main? Nous avons un potentiel forestier très important, le deuxième massif forestier tropical après le Brésil, 152 millions d'hectares de forêts. Ça représente environ 20% en termes d'émissions de gaz à effet de serre, donc qui sont absorbés par la forêt congolaise. Et ça fait partie des solutions que la RDC va proposer. La RDC dispose de 80 millions d'hectares de terres arables qui peuvent nourrir non seulement les Congos, mais toute l'Afrique. Et ça, c'est également des solutions qu'on va apporter. L'autre élément que la RDC pourra apporter comme message fort, c'est le potentiel dont elle dispose en termes de ressources en eau. Plus de 50% du bassin en termes de ressources en eau de la cuvette centrale se trouve au Congo. La crise de l'eau, c'est vraiment une menace qui pèse déjà sur le monde aujourd'hui avec les changements climatiques. Et puis, nous avons les potentiels énergétiques, 100 000 MW en termes de potentiel hydroélectrique, sans parler des autres potentiels que les pays disposent, c'est énorme. Donc, c'est des solutions importantes que la RDC pourra partager. Et puis, la position géographique de la RDC stratégique, avec 9 pays tout autour, c'est une influence importante que la RDC peut exercer. Donc, la RDC fait partie des pays clés. C'est pour ça qu'à Bouger, justement, là où vont se tenir les négociations sur le changement climatique, la RDC dispose d'un stand en plein centre de Bouger. Et donc, c'est un pays qui va être en vedette, si on peut dire ainsi, à la COP21.
Oui, la RDC s'amène là-bas avec des solutions, mais pour gagner quoi?
On parlait de 21 à 22 milliards, bien sûr que la RDC aussi met sur la table. Voilà ce que je peux proposer comme solution. Mais pour que je puisse les réaliser, il me faut environ 22 milliards de dollars. Et ces 22 milliards, c'est pourquoi? C'est parce que ces terres-là sont aujourd'hui utilisées de façon non efficiente. Il n'y a pas de modèles agricoles éprouvés pour utiliser les terres. Les 80 millions d'hectares dont je viens de parler, si on n'a pas des modèles agricoles stables, eh bien, on va dilapider ça. Et donc, ça va être une perte pour le pays. Et donc, on est aussi très très content parce que la RDC est en train d'aligner des négociateurs très très pointus et donc qui ont déjà une certaine haute opinion et qui bénéficient effectivement de beaucoup de crédibilité. Donc le pays est dans la bonne voie. Encore une fois, c'est l'appui du PNUD qui a permis de soutenir la RDC à forger des capacités en termes de négociations sur le changement climatique.
Idesba Tinamoura, merci.
Merci.
Mobilisation contre la rougeole, nous sommes dans la nouvelle province du Tanganyika, en territoire de Moba. 6 zones de santé sur 11 de ce territoire sont touchées par l'épidémie de la rougeole et la menace pèse sur les autres. Le médecin épidémiologiste de l'OMS de cette province était en séjour dans la contrée en début de semaine pour préparer la riposte contre cette épidémie. C'est ce que nous dit Espedi Mwambamoupi.
Alors que la zone de santé de Manono est entrée depuis le 14 novembre en pleine campagne de riposte contre la rougeole, l'heure est au préparatif pour une dizaine d'autres zones de santé de la province du Tanganyika. Le médecin épidémiologiste de l'OMS au Tanganyika, Dr Juvenal Bukuta, fait le point sur l'épidémie.
Sur les 11 zones de santé, nous avons déjà 6 dans lesquelles l'épidémie a été confirmée. C'est le cas de la zone de santé de Nyimba, la zone de santé de Nyuzu, la zone de santé de Kabalo, la zone de santé d'Ankoro, la zone de santé de Manono et la zone de santé de Kiambi. Mais cependant, nous avons des zones de santé dans lesquelles on n'a pas confirmé d'épidémie, mais ces zones de santé partagent les limites avec les zones de santé en épidémie confirmée. Donc ce sont des zones de santé à risque élevé.
D'après le médecin de l'OMS, ces zones de santé à risque sont Kansimba, Kongolo et Mbulula. La riposte en cours de préparation va concerner non seulement les zones de santé touchées par l'épidémie, mais également celles à risque. Kalemie, Exféli Mwambamoubi, Radio Kapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
La conférence sur le changement climatique de Paris, COP21, c'est dans plus ou moins une dizaine de jours. Suivez cette question posée par un confrère et la réponse de Geneviève Delannoy du PNUD à Kinshasa.
Flavien Sens pour Planète Télévision. Ma préoccupation, c'est sur le pilier développement. Florence, dans quelques semaines, la conférence France-Afrique sur les réchauffements climatiques. Quelle est la contribution des piliers de développement des Nations Unies dans ce forum, surtout sur le développement économique vers COP21. Merci.
Merci pour cette question. La RDC est un pilier important en Afrique pour tout ce qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est le premier pays francophone qui est capable de montrer à Paris une stratégie pour, premièrement, apporter l'électricité à toute sa population, à procéder à des économies en tirant au mieux les ressources des énergies renouvelables, à aussi améliorer le quotidien des femmes, comme par exemple éviter qu'elles n'aillent chercher du bois, mais plutôt trouver des sources d'énergie alternatives, comme les foyers améliorés, etc. Donc dans différents points, la RDC a quand même une attitude assez pionnière, et la volonté est exprimée au plus haut sommet de l'État, c'est le chef de l'État qui a déclaré que la RDC devait absolument s'engager dans cette voie. Preuve, il y a à peu près une quinzaine de ministères qui sont engagés là-dedans. Ça va de l'environnement jusqu'aux femmes, familles, enfants, en passant par les ressources hydrauliques, etc. Donc, la RDC est totalement prête à présenter un plan d'action concret à la COP21 à Paris. Ce n'est pas seulement une conférence France-Afrique, hein, c'est une conférence mondiale. Hein. C'est vraiment important, c'est un accord international qu'on espère de tous les pays du monde pour ne pas augmenter la température de 2 degrés Celsius et donc pour limiter les effets néfastes du réchauffement climatique.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Je suis Jean Kassami Baralibiru, je casse pour les collègues de la rédaction ici à Bukavu. Je suis marié et père de 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Mon cursus scolaire et académique, j'ai fait les humanités pédagogiques où je suis sorti diplômé d'État en 1986. Après, j'ai obtenu mon diplôme de graduat en arts et métiers de l'audiovisuel à l'Institut supérieur de l'audiovisuel ISA Bukavu en 1993. Mon parcours professionnel se présente comme suit. Dans l'agence actuelle, c'est-à-dire à la radio Okapi, j'ai été engagé en 2003 en qualité de journaliste et présentateur des journaux, des émissions spécialisées et des magazines. Je suis aussi reporter. Quand j'arrive au bureau, je participe chaque matin à la conférence de rédaction autour d'une table avec mes collègues journalistes de la rédaction de Bukavu. Après la répartition des tâches, j'effectue une descente sur le terrain pour les reportages. Au retour, souvent la mi-journée, je me confie à la mise en page avant la mise en onde à partir de 17h, heure de Bukavu pour le décrochage local. Avant mon arrivée à la radio Okapi, j'ai travaillé dans l'enseignement primaire et supérieur. J'ai été journaliste dans plusieurs chaînes de radio-télévision, la RTNC, à Ouvir, et j'ai été rédacteur en chef. Radio Maria, centre locolé en qualité de pigiste. Je dois aussi ajouter que j'ai travaillé dans une radio concurrente à la RTNC à l'époque de la guerre de l'AFTL et du RCD. Quand je suis libre et surtout les week-ends, je consacre mon temps aux activités de l'église. Je profite aussi de certains moments pour visiter mes amis et frères avec lesquels nous sommes restés longtemps séparés à cause des activités professionnelles qui me renvoient souvent à l'intérieur de la province. Je préfère manger du foufou à la viande de chèvre grillée. Quand je suis libre, j'aime écouter la musique religieuse. J'aime aussi aller au théâtre, mais malheureusement, cette activité de loisir n'est plus fréquemment organisée ici à Bukavu. Mes perspectives d'avenir, avoir des moyens financiers qui me permettent de contribuer à la relance des activités de développement dans mon groupement d'origine de Ndouba, dans le territoire de Walou.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capri.
Retenez cette date, le 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes. Voilà, c'est la fin de cette édition du magazine des Nations Unies, une édition coordonnée par Jean-Pierre Elali Ikoko. Honoré Missenga était au reportage, Thérèse Bassoubi l'a présenté avec le concours technique de Guy Manzangou sous la supervision de Martin Sebou-Jangoué. Vous pouvez retrouver cette émission sur radiocapi.net. On se retrouve dimanche prochain et en attendant, excellent dimanche à tous.